Le journal présenté par Ilan Malcarme.
Bonsoir à tous. La reine de la soul nous a quittés. Aujourd'hui, Aretha Franklin s'est éteinte à l'âge de 76 ans. Elle souffrait depuis plusieurs années d'un cancer du pancréas. Elle avait récemment été placée en soins palliatifs à son domicile près de Détroit. Elia Bergel reviendra sur les grands moments de la vie de cette immense artiste. L'Union européenne réplique au gouvernement italien. Plusieurs ministres ont critiqué l'UE suite à la catastrophe de Gênes. Mais de son côté, la Commission européenne estime avoir au contraire soutenu les infrastructures du pays. Nous ferons le point avec l'Axe Milota depuis Bruxelles. En France, l'association Droit au Logement a organisé cet été plusieurs manifestations. Ses militants se sont notamment rassemblés devant le logement de fonction qui avait été attribué à Alexandre Benalla. Ils demandent des solutions pour quelques 300 familles mal logées. Ils ont été reçus ce matin en préfecture. Pour quel résultat? Nous entendrons une militante, Marie Huiban, à ce sujet. Elle était surnommée The Queen of Soul, la reine de la soul. Elle a interprété des titres immortels qui ont traversé les générations comme Respect, I Say a Little Prayer ou encore Don't Play That Song que nous entendons ici. L'immense chanteuse américaine Aretha Franklin s'est éteinte aujourd'hui à l'âge de 76 ans des suites d'un cancer du pancréas. Elle recevait depuis plus d'une semaine des soins palliatifs à son domicile de Détroit. Bonsoir Elia Bergel.
Bonsoir Ilan, bonsoir à tous.
Alors c'est véritablement l'incarnation de la soul music et même d'autres genres musicaux qui nous quittent aujourd'hui.
Oui, la soul perd sa diva la plus emblématique, un génie précoce, car Aretha Franklin a commencé le chant dès 5 ans à l'église aux côtés de son père pasteur. C'est à 14 ans qu'elle fera ses premiers enregistrements. En 1966, elle rejoint une première maison de disques. Mais le succès n'est pas immédiat malgré plusieurs albums. Sa carrière décolle en 1966 chez Atlantic Records. Sa reprise du tube féministe d'Otis Redding, Respect, connaîtra un succès immense. Dans les années 1970, Aretha Franklin retourne au gospel. Son album Amazing Grace en reste une référence. La diva recevra 18 Grammy Awards dans sa carrière, le plus récent en 2004 pour Wonderful, un titre issu de son dernier album. Forcément très exposée, la vie d'Aretha Franklin a été marquée par deux engagements, l'égalité entre les sexes et la lutte pour les droits civiques. Elle chante par exemple aux obsèques de Martin Luther King et à la cérémonie d'investiture de Barack Obama en 2009. La Queen of Soul s'est produite pour la dernière fois en public l'année dernière au profit de la fondation Elton John. Aretha Franklin aura vendu 75 millions de disques dans sa vie. L'influence qu'elle a laissée est forcément considérable. Grande voix de la soul, Aretha Franklin est désormais une grande voix de notre temps.
Respect, l'un des plus grands morceaux de la reine de la soul. Merci à vous, Elia Bergel. Nous rappelons donc cette information, le décès aujourd'hui d'Aretha Franklin à l'âge de 76 ans. Parmi les hommages, citons ce tweet signé Paul McCartney. Elle nous manquera, mais le souvenir de sa grandeur en tant que musicienne et être humain exceptionnel nous accompagnera pour toujours. Avec amour, Paul. Et merci également à Yacine Bouzard pour le montage musical que nous avons entendu. Comment sanctionner Autostrade, la société qui gère l'autoroute A10 après cette catastrophe de Gênes, ce pont qui s'est écroulé faisant au moins 38 morts? Cette question est étudiée de près en ce moment par le gouvernement italien qui analyse plusieurs options. Au départ, il était question d'une révocation totale de la concession, mais finalement, il s'avère que cela pourrait être très compliqué. Cela ne pourrait se faire qu'au prix d'une longue procédure judiciaire et de lourdes indemnités. Finalement, l'État italien envisage donc également de simplement révoquer peut-être la section A10 ou d'émettre une pénalité financière qui, si elle est décidée, devra alors excéder les 150 millions d'euros. C'est ce qu'affirme Eduardo Rixi, vice-ministre des Transports. Au sujet de cette catastrophe en Italie, toujours l'Union européenne réplique aujourd'hui au gouvernement italien. Plusieurs ministres ont ouvertement critiqué l'UE et ses mécanismes. Matteo Salvini, le ministre de l'Intérieur italien, a ainsi plaidé pour exclure les fonds pour la sécurité du pacte de stabilité et de croissance européen. Les investissements qui sauvent des vies, des emplois et le droit à la santé ne doivent pas faire l'objet des calculs rigides et des règles imposées par l'Europe, a-t-il déclaré. Il a été suivi sur ce point par le vice-premier ministre Luigi Di Maio, qui est aussi le chef de file du mouvement 5 étoiles, qui a affirmé ceci. L'Europe peut dire ce qu'elle veut, mais sur ce point, nous ne demandons pas, nous exigeons. Aujourd'hui donc, Bruxelles réplique, la Commission estime qu'elle n'a pas de leçon à recevoir. Lax Milota.
L'UE a encouragé les investissements dans les infrastructures en Italie, affirme un porte-parole de la Commission européenne. Pour la période de 2014 à 2020, l'Italie a ainsi bénéficié de 2,5 milliards d'euros de fonds européens pour des investissements dans ses infrastructures routières et ferroviaires. À titre de comparaison, la France, par exemple, a reçu une enveloppe moins élevée, 380 millions d'euros pour la même période. Il ne peut y avoir de compromis entre les règles fiscales et la sécurité des Italiens, a déclaré le ministre de l'Intérieur, Matteo Salvini, pointant du doigt les règles budgétaires européennes. Réponse du porte-parole de l'exécutif européen, Christian Spar.
Dans des recommandations faites en 2018 aux États membres et adoptées par le Conseil, nous avons appelé les autorités italiennes à mieux cibler et accélérer les dépenses liées aux infrastructures. Comme l'a dit le président Juncker, l'Italie est l'un des pays qui bénéficie du plus de flexibilité possible au sein du pacte de stabilité et de croissance. Le pays avait donc largement les possibilités d'investir plus ces dernières années dans ses infrastructures.
L'enveloppe de 2,5 milliards n'est pas la seule, ajoute une autre responsable. Il existe aussi des investissements européens pour le transport urbain ou la mobilité propre, investissements dont bénéficie l'Italie.
Reportage signé Lakshmi Lota. La semaine dernière, la livre turque s'est écroulée, mais il en faut visiblement plus pour remettre en question l'optimisme du gouvernement. Nous émergerons encore plus fort de ces turbulences, c'est ce qu'a déclaré aujourd'hui lors d'un discours le ministre turc des Finances Berat Albayrak, qui est aussi d'ailleurs le gendre de Recep Tayyip Erdogan, le président turc. Le ministre affirme qu'aucun plan du Fonds monétaire international n'est dans les tuyaux. Alors en quoi consiste plus précisément la stratégie du pouvoir turc face à cette crise? Élément de réponse avec Alexandre Biet, notre correspondant à Istanbul.
Les dirigeants turcs multiplient les messages rassurants dans l'espoir de stabiliser, voire de renforcer la livre turque. Recep Tayyip Erdogan s'est entretenu aujourd'hui avec Emmanuel Macron, hier c'était avec Angela Merkel. Mais c'est surtout le discours du ministre des Finances et gendre du président Berat Albayrak qui était attendu, un discours par visioconférence devant plusieurs centaines d'investisseurs internationaux. Un peu la tentative de la dernière chance pour le ministre Albayrak, car celui-ci a été bien peu convaincant lors de son discours vendredi dernier au plus fort de la crise de la livre. Et depuis sa nomination en juillet, les spécialistes s'inquiètent de son manque d'expérience et de la forte influence exercée sur lui par Recep Tayyip Erdogan. Aujourd'hui, Berat Albayrak devait donc se montrer plus ferme et plus concret. Il a rejeté toute possibilité d'intervention du FMI dans l'économie turque. Il a assuré que la réduction de l'inflation était la priorité absolue, que des réformes économiques seraient entreprises et que la Turquie sortirait plus forte de la crise grâce notamment aux investissements étrangers. Une heure après la fin de son discours, la livre turque, scrutée par tous les marchés, reprenait un peu de vigueur. Signe peut-être que le ministre des Finances a su convaincre son auditoire pour l'instant.
Économie toujours, peut-être un espoir de rompre un tout petit peu la glace entre Pékin et Washington, même si évidemment il ne faut pas trop rêver non plus. La Chine va envoyer un haut responsable aux États-Unis à la fin du mois d'août pour reprendre les négociations commerciales. Ce sont les premières discussions du genre depuis de nombreuses semaines. Le vice-ministre du commerce chinois rencontrera donc le sous-secrétaire américain au Trésor en charge des affaires internationales à l'invitation des États-Unis. L'administration Trump, rappelons-le, a déjà mis en place une série de taxes à l'importation sur des produits chinois. Pékin a également répondu avec des mesures de rétorsion de son côté. Au Nicaragua, Daniel Ortega, le président, fait savoir qu'il rejette les propositions de sortie de crise avancées par l'Organisation des États américains. Il refuse notamment toujours d'organiser des élections présidentielles anticipées. Mais le peuple continue de faire entendre sa voix. Hier encore, des milliers de manifestants se sont rassemblés à Managua, malgré les interdictions et la répression. La marche avait pour mot d'ordre la démission du président Ortega et la libération des opposants emprisonnés pour avoir pris part aux manifestations. Les précisions de Geneviève Garrigos d'Amnesty International, interrogée par Nadine Epstein.
La marche du 15 août a été organisée à l'initiative de l'Alliance civique pour la justice et la démocratie, un mouvement paysan dont Medardo Magrena, qui est un des leaders, Pedro Mena et Silvio Pineda, ont été arrêtés le 13 juin à l'aéroport de Managua, détenus au secret pendant plusieurs jours et présentés à la justice. Hier, ils ont été accusés de terrorisme et d'avoir enlevé et assassiné 4 policiers et un élu. Et tout cela s'est passé à huis clos. Par ailleurs, ce procès qui est tout à fait emblématique de ce que subissent les défenseurs et les leaders paysans lors des arrestations, lors de la détention, les personnes sont torturées et elles sont mises à l'isolement. Depuis le début, il y aurait eu plus de 2000 arrestations, 180 procès seraient en cours et tous avec les mêmes motifs, c'est-à-dire terrorisme, sédition, etc. Les manifestations aujourd'hui au Nicaragua ne sont pas organisée par un parti d'opposition, puisque l'opposition telle que telle a été démantelée. Mais c'est vraiment un mouvement de citoyens. Aujourd'hui, tout le monde demande des élections anticipées et une sortie démocratique de la crise. La grande difficulté, c'est que va faire l'OEA et quelles sont les mesures qu'elle peut prendre par rapport à ce refus de Daniel Ortega, là encore, de dialoguer et de trouver une sortie, sachant que l'Église, qui dès le départ s'était positionnée comme un médiateur pour trouver une solution, s'est retiré au regard justement du manque de volonté, voire la mauvaise foi caractérisée du président Ortega pour mener cette discussion.
Et hier, dans le même temps, des milliers de partisans de Daniel Ortega ont aussi manifesté dans le nord de Managua, réclamant son maintien au pouvoir. Le nouveau patron d'Air France pourrait donc être connu dans la soirée à l'issue d'un conseil d'administration et de plus en plus de signes semblent converger vers le nom de Benjamin Smith, actuel numéro 2 d'Air Canada. Alors ce choix n'est pas du tout celui des syndicats. Il est inconcevable que la compagnie Air France, française depuis 1933, tombe dans les mains d'un dirigeant étranger. C'est ce qu'affirment 9 syndicats dans un communiqué. En revanche, le représentant de l'État, actionnaire à 14% de l'entreprise, votera, lui, pour Ben Smith. Ben Smith qui a reçu aujourd'hui un soutien très appuyé, celui de Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie.
Nous avons toujours dit que nous voulions, pour Air France, le meilleur dirigeant possible. Et nous avons défini une feuille de poste. Dans cette feuille de poste, il y avait d'abord la bonne connaissance du secteur aérien. Nous voulions avoir une personnalité qui avait la connaissance de la compétition internationale. Et nous voulions avoir une personnalité qui ait déjà fait ses preuves dans une grande compagnie aérienne. Et bien, la personnalité qui est envisagée aujourd'hui pour prendre la direction d'Air France, elle remplit ces trois conditions que j'avais posées il y a maintenant plusieurs mois. Personnalité qui a une parfaite connaissance du secteur aérien, une personnalité qui a réussi la transformation d'une grande compagnie, Air Canada. Donc moi, j'estime que le profil qui est désormais retenu, qui sera proposé au conseil d'administration, est un excellent profil. Je peux vous dire que le représentant de l'État votera en faveur de cette nomination.
Des propos recueillis par Paul Nicolai. L'association Droit au Logement profite de l'été pour faire connaître ses revendications. Mardi, des militants ont manifesté devant le logement de fonction qui a été attribué à Alexandre Benalla, quai Branly. Ils avaient avec eux une banderole « Nous aussi, on veut un logement ». Ils avaient d'ailleurs auparavant manifesté dans d'autres différents endroits de Paris, et ceci dès le 4 juillet dernier. Cette visibilité estivale leur a permis d'obtenir un rendez-vous à la préfecture de Paris pour demander un relogement rapide des 300 familles dont ils s'occupent. Marie Huiban est militante pour le droit au logement. Elle est au micro de Véronique Robérotte.
Certains, comme M. Benalla, ont pu profiter de privilèges. Et à côté de ça, des centaines, des milliers de familles sont à la rue, qui sont menacées d'expulsion, pour qui l'État ne fait pas de cadeaux et ne respecte pas la loi. Suite à cette installation, on a obtenu un rendez-vous avec la préfecture de région, mais qui reste pour l'instant sourde à nos revendications. La seule chose qui est proposée au niveau de la préfecture de région aujourd'hui, c'est de voir pour le relogement de 30 familles. Sauf que c'est plus de 300 familles qui sont dans ce collectif. Donc ce collectif, les oubliés du logement, ce sont des familles, des personnes qui ont toutes fait des demandes de logement, qui pour la majorité d'entre elles sont reconnues prioritaires d'ALO, qui vivent aujourd'hui dans des conditions de logement qui sont complètement insupportables, en suroccupation, dans des taudis, ou alors qui sont à la rue, complètement à la rue, avec des enfants. Et là, il y a la rentrée scolaire qui va arriver. privée, et c'est insupportable pour ces pour nous, c'est insupportable pour ces familles de se dire que la rentrée scolaire va arriver et que ces conditions là vont rester telles quelles.
Droit au logement aura un rendez-vous début septembre au ministère de la Cohésion des Territoires. Le temps de demain sera marqué par des passages pluvieux à certains endroits. Les pluies seront notamment soutenues du centre jusqu'à la frontière belge et pourront même s'accompagner d'orages. Les régions du nord de l'Aquitaine à la Normandie devraient en revanche avoir du soleil. Côté température demain en matinée, cela partira de 17 degrés en Haute-Marne et cela montera jusqu'à 30 degrés en Corse du Sud. Cette édition a été préparée avec François-Charles Domergue. Elle a été réalisée à la technique par Jacques Hubert. Votre prochain rendez-vous avec l'information, c'est à 22h avec Ezekiel Fernandez.